Boomerang avec l'un des plus connus et des plus reconnus pianistes au monde qui propose sa version assez impressionnante des fameuses variations Goldberg de Bach. Il sera vendredi en concert ici à Radio France. Le voici en avant-première, Lang Lang dans Boomerang. C'est parti. Je ne sais pas quel chef d'orchestre ou musicien nous disait un matin à ce micro que le langage musical, c'est pas sorcier. Après tout, des notes, il n'y en a pas beaucoup, deux fois moins que de lettres de l'alphabet. Mais depuis ce jour-là, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir une correspondance entre l'acte d'écrire et celui de jouer, sur un piano en particulier, qu'on appelle aussi clavier, pour lequel il y a souvent des études, des variations, des transcriptions, et sur lequel certains musiciens, comme certains dactylos, écrivent avec une impressionnante rapidité, une note pour une lettre, un accord pour un mot, une phrase, c'est le même mot. Si ça se trouve, le piano, c'est un genre de stylo, mais il arrive qu'on écrive malgré soi, dans un acte inconscient, automatique, vous savez, que l'instrument se mette à parler. Que raconte un piano? Quelle langue parle-t-il, surtout, selon son âge, son bois, son coffre? Quelle voix est-ce qu'il a? Quel fantôme fait-il surgir, sans même qu'on les convoque? Et je pense à cette phrase célèbre que le compositeur Franz Liszt écrit à son ami Adolphe Pictet, dans une lettre de 1837 à propos de son piano. Il dit que le piano est le dépositaire intime de tout ce qui s'est agité dans son cerveau aux jours les plus brûlants de sa jeunesse. C'est là qu'ont été tous mes désirs, tous mes rêves, toutes mes joies, toutes mes douleurs. Comment voulez-vous que ça ne soit pas présent, tout ça? Comment voulez-vous que ça ne se ressente pas quand on pose ses mains sur le clavier d'un piano pour dire n'importe quelle phrase, n'importe quel mot?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a les moyens de faire parler les pianos. Il a joué lors des JO de 2008 à Pékin, mais aussi pour Barack Obama, Elisabeth II ou le pape François. Son album Piano Book, paru il y a 2 ans, est devenu le disque de musique classique le plus vendu au monde. Et en septembre dernier, il enregistrait son interprétation des variations Goldberg de Bach, couronnement de la musique baroque qu'il s'apprête à faire trembler l'auditorium de Radio France. En attendant, il est venu s'échauffer avec nous. Bonjour Lang Lang.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, est-ce qu'un piano parle ?
Oui, je dirais que le piano raconte toujours une histoire. Et en tant que pianiste, nous devons en quelque sorte créer les liens entre le récit et les notes de musique.
Et là alors, par exemple, qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'il vous raconte comme histoire ?
Ah, ça dépend certainement des morceaux et aussi de l'humeur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée absolument magnifique.
Vous lui parlez ?
Ah, je le sens. Je ne parle pas avec des mots, mais mon cœur s'exprime, je sens en quelque sorte l'humeur et les intrigues et les changements harmoniques. Nous dessinons simplement une image avec le piano.
Lang Lang, quand est-ce que vous avez compris que le piano serait votre confident ?
À l'âge de 5 ans, j'ai donné mon premier concert dans ma ville natale à Shenyang. Devant 800 spectateurs à l'époque. Et je me sentais extrêmement heureux sur l'estrade et j'aimais l'éclairage de la scène. Je me sentais très à l'aise.
Mais la première fois que vous vous êtes retrouvé devant un piano, c'était bien plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez joué? Est-ce que vous vous souvenez?
La première fois que j'ai vu un piano, c'était dans le dessin animé Tom et Jerry. Il jouait la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt. J'avais aucune idée de qui était Liszt à cette époque. C'était très tôt dans mon enfance.
Mais cet air de Tom et Jerry, peut-être que vous pouvez nous le montrer, nous le faire entendre ce matin pour qu'on comprenne d'où ça vient, votre piano Lang Lang.
La partie la plus intéressante, c'était celle-là.
En fait, ce que vous nous dites, c'est que vous avez découvert la musique classique à travers des dessins animés, mais aussi à travers la radio, paraît-il. Il faut nous raconter.
Quand j'étais enfant, j'écoutais cette radio de musique classique, la radio chinoise de musique classique, 2 heures le matin et puis 2 heures en fin de soirée. J'ai entendu beaucoup de belles mélodies, comme celle-ci.
Ou
Beaucoup de musique pour piano, et aussi des symphonies de Beethoven, et vous savez, tout ce répertoire standard.
Mais qu'est-ce qui se passait dans votre corps, Lang Lang, dans votre tête aussi, quand vous écoutiez ces morceaux à la radio ?
Je commençais déjà à jouer de la musique classique à cette époque. Pour moi, la musique classique, c'était quasiment mon quotidien. Je me sentais déjà très à l'aise avec Mozart ou avec Bach.
Aujourd'hui, quelle place a la musique classique à la radio chinoise ? Est-ce qu'on en passe suffisamment ?
Non, pas assez, non. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a qu'à Shanghai qu'il y a une radio classique. Mais à part ça, c'est toujours un mélange de jazz, de la musique country ou de la musique folklorique chinoise. Mais l'enseignement du piano et du violon est certainement très très bon en Chine. La plupart des enfants, si les parents en ont les moyens d'acheter un instrument, ils achètent toujours un piano. Donc la population qui étudie le piano est énorme. Mais la musique classique à la radio n'est pas encore très répandue en Chine.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait étranger à ça, Lang Lang. On connaît votre succès en Chine et il y a eu ce qu'on a appelé l'effet Lang Lang, c'est-à-dire que du jour au lendemain, des millions d'enfants se sont mis au piano. Et c'est une vraie question, comment on fait pour donner le goût à la musique classique, pour faire en sorte que les jeunes générations continuent à en jouer et à en écouter? C'est un jeu qui est très important pour vous, je crois.
Oui, la musique classique a changé ma vie. Elle a fait de moi un citoyen du monde. Elle a jeté des ponts entre différentes cultures, brisé des barrières culturelles. Et je pense que la musique classique est tellement au-delà des pays. Elle est vraiment au-delà des continents. Je pense que la musique classique peut même aller sur Mars si on en a besoin. Et je sais que de nombreuses notes de musique classique vont déjà dans l'espace. Mais plus important encore, c'est quelque chose qui a un effet intemporel.
Dans votre famille, Lang Lang, il y avait un piano. Ce piano, comment est-ce qu'il est arrivé chez vous ? Il faut nous raconter.
À l'époque, mon père était le joueur de erhu, des orchestres folkloriques locaux de ma ville natale. Nous vivions tous dans ce dortoir des musiciens où chaque locataire jouait d'un instrument. C'était le début des années 80. Le piano commençait tout juste à être produit en masse par les fabricants chinois d'instruments. Le prix a énormément baissé, mais il était encore très difficile de se les procurer. Ils étaient encore très chers. Il fallait économiser le salaire de la moitié de l'année de la famille pour acheter un piano à cette époque, au début des années 80. Donc tous mes parents, leurs collègues ont tous acheté un piano parce qu'ils aimaient cet instrument. Il y avait déjà un piano à la maison quand j'avais un peu plus de un an. Donc, aussi loin que je me souvienne, le piano était là. Et il est toujours resté là. J'ai en quelque sorte grandi avec cette image et ce son.
Alors, vous avez mentionné le fait que votre père était un musicien, qu'il jouait d'un instrument traditionnel chinois. Cette musique traditionnelle chinoise, on la connaît très mal en Europe. Pourquoi on la connaît si mal, d'ailleurs, si peu, à votre avis ?
Oui, malheureusement, en Occident, la musique classique est tellement prévalente dans le courant musical dominant, il est très difficile pour les musiques du monde de percer sur le marché.
Et qu'est-ce qui fait la beauté de cette musique traditionnelle chinoise, Lang Lang ?
Elle est très authentique, tout d'abord. Elle bénéficie d'un très bel héritage culturel de la Chine. Et comme vous le savez, la civilisation chinoise est très ancienne, très intéressante, très colorée. Et c'est quelque chose qui se reflète dans la musique. Je suis un grand amateur de la musique traditionnelle chinoise. Et j'essaye toujours de faire quelque chose lorsque je me produis en Occident. Lorsque je fais un rappel, c'est toujours avec un morceau de musique chinoise.
Voilà, vous me tendez une perche, Lang Lang. J'ai envie que vous nous fassiez entendre quelque chose d'inédit pour nous, un air de musique chinoise que je vais découvrir en même temps que les auditeurs et les auditrices de Boomerang. Vous êtes d'accord ?
Mais bien sûr, c'est l'un des airs les plus célèbres appelé « Fleur de jasmin ».
Okay.
Thank you.
Magnifique. Le pianiste Lang Lang et son piano ici ce matin. Lang Lang, vous jouez du piano depuis l'âge de 2 ans et on a fait de vous depuis toujours un virtuose. Qu'est-ce que ça veut dire virtuose au juste? À quoi ça renvoie historiquement?
Je veux dire, le plus grand virtuose dans le monde du piano, c'était Franz Liszt. Et il travaillait au piano pour 6 orchestres symphoniques, 5 opéras. Les notes volaient partout, mais dans le même temps, elles étaient dans le bon sens. C'est pas un grand n'importe quoi. Vous vous rendez compte qu'il est parfois difficile d'imaginer qu'un piano peut faire tant de choses au-delà de notre imagination. Et c'est quelque chose que les virtuoses m'apportent toujours. De l'intérêt, de la passion dans les concerts en salle. Et au siècle dernier, il y avait le grand Vladimir Horowitz. Et il y a toujours un ou deux virtuoses très inspirants à voir.
Mais en ce qui vous concerne, vous, quelles compétences spécifiques est-ce que vous aviez? Est-ce que c'était la précocité? Est-ce que c'était la rapidité d'apprentissage? Comment vous le mesurez?
Je pense que les virtuoses apportent toujours quelque chose que les gens n'ont pas vu auparavant. Et les gens ont donc l'impression que c'est la première fois qu'ils entendent quelque chose de la sorte. C'est ce genre de fraîcheur. Et aussi les virtuoses. Un vrai virtuose peut aller vraiment au fond du cœur des gens et faire jaillir les émotions, créer un moment spécial. Ils ont ce talent.
Lang Lang, pour vous qui êtes musicien, mais qui êtes aussi auditeur de musique, quel est le meilleur pianiste au monde?
Je crois que c'était Vladimir Horowitz.
Et à quoi ça tient? Pourquoi?
Eh bien, je crois que Vladimir Horowitz avait des compétences complètes pour faire sonner le piano comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Il pouvait tout faire au piano. Et aussi, il prenait des risques. Il ne se facilitait pas la vie. Il prenait beaucoup de risques lorsqu'il se produisait. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment. Je sens quelque chose qui est toujours inattendu. Et si au cours d'un concert, je sais exactement ce que le piano va faire, si je m'attends à ce que le ou la pianiste va faire, alors je pense que ce n'est pas un concert très réussi.
Mais alors, c'est passionnant, hein. On l'entend, être un grand pianiste, c'est évidemment travailler pour surmonter ses difficultés. La première fois que vous vous êtes confronté à une difficulté technique. Vous, c'était quand? Sur quel morceau? Et de quel compositeur?
Évidemment, il s'agit des variations Goldberg de Bach que j'ai pratiquées pendant plus de 25 ans avant de pouvoir les jouer sur scène. Et pour enregistrer cette formidable œuvre pour piano, il faut en savoir tellement sur la musique baroque et l'époque du baroque. Et il faut jouer sur un double clavier, comme s'il s'agissait d'un seul clavier. Mais en fait, c'est écrit pour deux claviers. C'est donc une pièce folle. Et en plus, certains moments, des accords mineurs sont très sombres, très tristes, très douloureux. Et pour ce genre de musique, il faut avoir digéré certaines expériences de la vie et ressentir les choses très, très profondément. Et d'une certaine manière, c'est triste, oui, mais c'est beau. C'est pas toujours très vivant et exaltant, mais il y a des moments qui sont vraiment au-delà de la douleur.
Alors on y reviendra, évidemment, à ces variations Goldberg, Lang Lang, mais votre premier concert, votre tout premier concert, vous le disiez, vous l'avez donné à l'âge de 5 ans. Revenons aux origines des problèmes. Qu'est-ce que vous avez joué ce jour-là et qu'est-ce qui vous semblait difficile dans ce morceau?
Le morceau n'est pas tellement difficile, mais pour un enfant de 5 ans, c'est peut-être difficile. Alors j'ai joué quelques morceaux. J'ai joué celui-ci.
Qu'est-ce qu'il y a de facile, Lang Lang, dans ce morceau, parce que...
J'ai joué la valse du petit chien de Chopin, puis j'ai joué aussi cette sonate de Mozart. Et puis j'ai joué une petite pièce chinoise. Ouais, je crois que c'était celle-là.
Ce qui veut dire, c'est que vous rentrez au conservatoire de Pékin à l'âge de 9 ans, et il paraît que votre professeur de piano n'était pas tendre du tout, Lang Lang. a été même colère.
Ah oui, en fait, j'ai eu un professeur merveilleux dans ma ville natale. Mais avant d'entrer au conservatoire, j'ai eu un professeur horrible, le professeur colère. Parce qu'elle était toujours en colère. Et elle m'a viré après quelques coups.
Mais qu'est-ce qu'elle vous disait ?
Elle a dit que je ne devrais pas jouer du piano, quelque chose comme ça. Ça a été une expérience horrible, très effrayante. Parce que plus tard, à chaque audition, elle était toujours là, vous savez, comme une ombre noire.
Diriez-vous qu'elle vous a aidé pour autant ?
Non, non. J'aurais aimé ne jamais avoir ce genre d'expérience. Et c'est quelque chose que je déteste vraiment, les mauvais professeurs. Je les déteste vraiment. C'est pour ça que j'ai tout essayé pour que nos nouveaux étudiants choisissent le bon professeur, pour ne pas avoir cette mauvaise expérience. C'est horrible, parce que ça vous rendra tellement déprimé, et ça refroidira tout amour pour la musique, ce type de professeur.
En fait, à vous entendre, je parle sous votre contrôle, hein, mais j'ai l'impression que la plus grande difficulté que vous ayez eu à surmonter, c'était pas lié à la technique pianistique, mais c'était lié à la pression.
Oui, la pression aussi, parce que certains moments, si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous sentez comme si vous étiez trompé de chemin pour l'avenir.
Mais quand vous êtes stressé, quand la pression est trop forte, qu'est-ce que vous jouez sur votre piano pour vous détendre ?
Normalement, je joue un nocturne de Chopin. Oui, ça marche très bien.
Ça va beaucoup mieux là tout de suite. Et quand vous êtes en colère, Lang-Lang.
Normalement, j'aime jouer quelque chose de rapide pour l'évacuer, comme le concerto pour Rachmaninov numéro 3.
Merveilleux. Et quand vous êtes amoureux,
je pense à quelque chose de parisien. Oui, quelque chose comme ça.
Lang-Lang, quand vous pensez aux variations Goldberg de Bach, laquelle vous vient immédiatement à l'esprit ?
Thank you.
faut voir comme il respire avec sa musique, comme il parle avec son piano, comme il lui ressemble aussi, avec son pari de la chaussure noire ce matin, ses touches de gris, blanc et noir, et sa veste aux allures de queue de pie, lang-lang, joue pour nous les variations Goldberg de Bach pour un pianiste. Quel accomplissement est-ce que c'est que de jouer cette pièce ?
Wow, I mean, this one is a...
Eh ben, je veux dire que celle-là est assez difficile. Mais il faut être très patient. Et il faut avoir un très bon plan stratégique pour vous-même. Parce qu'elle dure presque 90 minutes quand vous répétez tout. Vous avez une première vie, et après chaque répétition, vous avez une deuxième vie. Et c'est quelque chose d'assez unique de pouvoir vivre votre vie deux fois.
Alors, c'est très beau parce que vous les avez longtemps explorés avant de les jouer. Quand vous les avez découvertes, qu'est-ce qui vous manquait pour les interpréter ? Qu'est-ce qui vous restait à apprendre ?
Je me souviens encore de la première fois que j'ai entendu ce morceau. C'était Glenn Gould. Son enregistrement de 1991 et j'avais 10 ans. J'ai écouté cet enregistrement en 1992. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que Bach pouvait être joué de cette manière, avec tous ces contrastes de tempérament. Et avoir une voix si multiple, multidimensionnelle dans l'articulation même et pouvoir aller avec un type de son si différent du canon numéro 1 au canon numéro 9 et aussi jouer de manière si différente entre la première aria et ensuite après les variations. C'est presque comme un souvenir de votre vie entière. C'est incroyable. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je devrais apprendre au moins durant la moitié de ma vie et ensuite l'interpréter.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui continue à vous résister dans ces morceaux ?
Pas grand-chose maintenant. En fait, je suis prêt à me mesurer à tout. J'ai toujours voulu tout essayer.
Alors, c'est intéressant parce que vous dites que pour réussir à les jouer, ces variations Goldberg, vous avez eu besoin de vous rendre à Arnstadt, en Allemagne, pour jouer sur l'orgue qu'utilisait Bach. En jouant sur cet orgue, qu'est-ce que vous avez eu l'impression de comprendre ?
Eh bien, c'était son premier emploi. Il avait 18 ans. Et l'histoire est drôle. Il lui avait demandé de les aider à choisir un orgue. Alors, il a joué, il l'a essayé, ils ont dit « Ah, en fait, nous aimerions vous engager comme maître de musique de l'église. » C'est ainsi qu'il a obtenu son premier emploi. C'était un vrai virtuose. Et j'ai même entendu dire que ses pieds étaient encore plus rapides que ses mains.
Mais Lang Lang, dans quelle mesure, pour comprendre un morceau et pour bien l'interpréter, diriez-vous qu'il faut aussi s'imprégner de la culture de son auteur ?
Nous devons apprendre comment il vivait, quel était son plat préféré, son livre préféré, quels amis l'entouraient, comment était la société à cette époque et qui étaient ses ennemis. Nous devons aussi savoir ce qu'il détestait.
C'est-à-dire que découvrir le monde occidental, l'Europe notamment, ça vous a permis d'être un meilleur interprète des compositeurs européens ?
Absolument. Je pense qu'il faut en savoir plus sur la culture européenne, l'histoire, ce qui s'est passé. Mais en même temps, je pense qu'il est aussi important de connaître ses propres origines. Moi, je suis originaire de Chine, j'ai donc besoin de connaître aussi l'histoire de la Chine, car quand on connaît les deux, on peut comparer.
Quand est-ce que vous avez quitté la Chine pour la première fois ?
J'avais en fait 12 ans. La première ville où je suis allé, c'était Francfort, via Paris. En fait, j'ai fait escale à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. Et je me souviens encore que j'avais acheté une petite tour Eiffel et je l'ai posée sur mon piano à mon retour en Chine.
Et puis, il y a eu ce moment très important dans votre carrière quand vous vous êtes installé aux États-Unis avec votre père suite à votre admission au Curtis Institute de Philadelphie. Quel choc est-ce que ça a été, ça ? Quel choc culturel ?
Le premier jour de mon arrivée, j'ai entendu du hip-hop. J'avais jamais entendu ça en Chine à l'époque, en 97. Et à l'époque, tous les élèves de mon lycée ne connaissaient pratiquement rien à la musique classique. C'était un véritable choc culturel. Mais pour en revenir à l'école, au Curtis Institute, tout le monde était incroyablement talentueux, venant du monde entier. Et nous étions inspirés les uns par les autres. C'était un endroit très très compétitif, mais avec beaucoup d'amour.
Mais à ce que vous nous dites, j'ai l'impression que c'est ce qui vous a permis d'élargir vos horizons musicaux, en fait. Il paraît que c'est là-bas que vous avez même découvert le répertoire français.
Oui, et puis puis j'ai commencé à écouter beaucoup de Debussy et Ravel, et Fauré, et Saint-Saëns, et César Franck.
Ça veut dire quoi? En quoi?
L'œuvre la plus spirituelle, la plus libre d'esprit, et de plus, l'œuvre européenne la plus extrême orientale.
Ah, il faut nous expliquer, il faut nous montrer avec le piano.
Oui, ce morceau de Debussy pourrait être une belle musique folklorique de Chine. Oui, ça pourrait être un air folklorique extrême oriental.
Quand est-ce que vous vous sentez le plus libre, vous?
Je me sens toujours le plus libre quand je joue de la musique, évidemment. Oui, je ne me souviens pas d'un moment précis, mais quand je suis dans la musique, le monde sort toujours avec mon cœur, ma passion, mes émotions.
Vous voulez dire qu'on peut lâcher les chiens avec un morceau de musique classique qui est pourtant si contraint?
La structure, c'est toujours plutôt une contrainte, mais l'émotion, les sentiments sont extrêmement libres.
Quand vous pensez à la lettre à Élise, par exemple, de Beethoven, qui est un morceau que l'on connaît bien, qui est un tube, mais qui pourtant a une partie extrêmement complexe, quelle liberté est-ce que vous vous accordez?
Oui, évidemment, j'essaie de garder le tempo d'une certaine manière, comme ce que Beethoven a écrit. Il est très précis sur ce qu'il veut. Mais en même temps, je veux dire, quand vous avez un dolce pianissimo, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez le jouer comme ça. Ou même comme ça. Oui, il y a beaucoup de possibilités, même si vous devez conserver certaines formes. Mais quand même, il y a beaucoup de façons de l'interpréter.
Vous ne pouvez pas nous taquiner comme ça, Langlang. Il faut continuer cette lettre à Élise pour les auditrices et pour les auditeurs de France Inter.
Bien sûr, bien sûr. Thank you.
le pianiste Lang Lang et sa version de la si belle lettre à Élise de Beethoven. Merci tellement, Lang Lang, d'être venu faire un tour dans cette émission. Et merci à votre interprète ce matin, le très mélomane Michel Zlotowski. Je rappelle, Lang Lang, que vous vous apprêtez à enflammer de vos doigts l'auditorium de Radio France le 26 novembre.